La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnin.
Bonjour.
Nous sommes ce matin en Algérie où vont se dérouler les dernières grandes manifestations du vendredi avant l'élection présidentielle le 12 décembre.
Le 12 décembre, ce sera jeudi prochain et nous sommes donc dans la dernière semaine d'une non-campagne électorale à cacher, selon ce qu'en dit l'édito du quotidien Liberté Algérie. Les cinq candidats, tous issus de l'ancien régime, alors que le peuple réclame depuis des mois une vraie rupture, ces cinq candidats ont pu mesurer au cours de leurs déplacements à travers le pays ces derniers mois l'étendue et l'ancrage populaire du rejet dont ils sont l'objet, selon ce qu'écrit donc Saïd Cherki. Le terrain est irrémédiablement hostile pour le pouvoir militaire de transition qui a pourtant voulu faire de ce scrutin le point d'orgue de sa feuille de route politique. Et ceux que l'on continue à entendre le plus, ce sont les opposants à la présidentielle, ceux qui appellent à la boycotter. Eux seront à nouveau dans la rue ce vendredi, comme chaque vendredi depuis plus de 8 mois, galvanisés par la vulgarité, le terme était hier en une d'El Watan, que leur a opposé en début de semaine le ministre de l'Intérieur algérien Salah Eddine Darmoun. « Ceux qui sont contre l'élection », a-t-il déclaré, « sont des pseudo-algériens, des traîtres, des homosexuels et des mercenaires à la solde du colonialisme français ». Le ministre l'a dit devant le Sénat algérien et Tayeb Belghish pour El Watan donc, note que jamais depuis l'indépendance, un haut responsable de l'État n'avait à ce point déversé des insanités sur le peuple algérien. Salah Eddine Darmoun a-t-il agi sur instruction? Pensait-il faire peur aux Algériens pour affaiblir la mobilisation du 42e vendredi de la colère? Aujourd'hui, si c'est le cas, c'est raté. Ce déchaînement de vulgarité n'aura fait que jeter de l'huile sur le feu, illustrer la perte de contrôle du pouvoir et pousser les manifestants à lui répondre dans la rue comme sur les réseaux sociaux où le hashtag « Nous sommes tous des mercenaires pervers et gays » est devenu viral depuis mardi, tout comme les appels à venir toujours plus nombreux à la « Gay Pride » d'aujourd'hui.
La fin de campagne verse donc dans le caniveau du côté des autorités. C'est d'ailleurs ce qu'en retient le célèbre dessinateur de presse Dilem.
Et dans sa dernière livraison à Liberté Algérie, Dilem dessine un couple d'Algériens dans la rue qui passe devant une bouche d'égout ouverte. Il y a des micros posés devant et l'homme du couple dit « Tiens, encore une conférence de presse du ministre de l'Intérieur ». Voilà donc comment, c'est le titre du dessin, l'actualité s'emballe à une semaine de la présidentielle. Et cette fin de campagne, c'est ce qu'on lira sur le site Tout sur l'Algérie, elle se noie aussi dans les zones d'ombre d'une autre présidentielle, celle qui n'a pas eu lieu au mois d'avril, empêchée par le soulèvement populaire qui avait démarré donc au printemps, et qui, cette élection, devait imposer un cinquième mandat du président grabataire Abdelaziz Bouteflika. 15 personnes, dont deux anciens premiers ministres, sont jugées pour corruption depuis mercredi pour avoir monté et couvert un système de financement occulte de la campagne Bouteflika. Les premières révélations sont enveloppées du parfum nauséabond de la corruption, la vraie, celle qui met en cause directement le système Bouteflika et ses pratiques quasi mafieuses d'après ce qu'en décrit TSA. En organisant ce grand déballage judiciaire à une semaine donc du scrutin du 12 décembre, le pouvoir actuel tente-t-il de faire diversion, de prendre ses distances aussi avec l'ère Bouteflika? Sans doute, estime Saïd Cherki pour Liberté Algérie, car finalement, quoi de mieux qu'un procès spectaculaire ou un scandale retentissant pour faire écran de fumée autour d'une mauvaise passe politique?
Et avant d'évoquer la mobilisation contre la réforme des retraites en France avec notre invité Christophe Aguiton dans quelques instants, voyons ce qu'en dit la presse européenne, Camille.
Elle en dit que la République ne marche plus. C'est le titre d'une analyse signée Michaela Wieger pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La France est quasiment paralysée depuis hier par la protestation contre la réforme à venir des retraites. Les intentions du gouvernement français sont encore nébuleuses, reconnaît la correspondante à Paris du quotidien allemand. Mais l'opposition d'une bonne majorité des Français, elle, est déjà claire. Car il faut dire que depuis un an, notre pays ne connaît pas de répit dans le sens d'une forme d'intranquillité sociale permanente qui s'est installée. Et ça va bien au-delà des gilets jaunes ou des black blocs. La journée d'hier a montré un renforcement notable des rassemblements syndicaux que l'on disait dépassés ou condamnés à l'échec. Ce parfum que l'on sent dans l'air ambiant en France, c'est celui de la défiance générale contre Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est ce que déclare une manifestante parisienne à Angélique Chrysafis du Guardian. La journaliste confirme que c'est bien tout le projet macroniste de transformation profonde du modèle social français qui est contestée. Chrysaphis note d'ailleurs que beaucoup de slogans lus et entendus hier dans les cortèges concernaient la défense des services publics au moins autant que les retraites.
Et pour El País en Espagne, c'est bien Emmanuel Macron en personne qui est mis sous pression par le succès de la grève générale entamée hier.
En inscrivant leur mobilisation dans la durée, écrit Marc Bassett, les syndicats français tentent de réussir là où les gilets jaunes ont échoué, à savoir faire plier le président des patrons et du mépris de classe. Ils ont pour eux le nombre, ces millions de Français inquiets et concernés par ce sujet très concret des retraites. Mais le résultat final est loin d'être connu à l'avance. L'exécutif met en scène un président et un premier ministre calmes, décidés à aller au bout de leur réforme, dans une démarche tout de même d'écoute et de concertation. La porte n'est donc pas fermée à des arrangements, ce que résume en ces termes Richard Verli dans les colonnes du Temps suisse. Sur le front social, Édouard Philippe doit déminer et bricoler. Ce juppéiste pur jus essaye surtout de ne pas tomber dans le piège du droit dans ses bottismes qui avait perdu son mentor en 1995. Ne pas croire que le mouvement va s'étioler de lui-même, ne pas sembler fermé au dialogue, imaginer des moyens d'organiser encore et toujours une forme de participation citoyenne à ce débat sur les retraites. Ironie du sort et de l'histoire, commente Richard Verli. Édouard Philippe, le disciple favori d'Alain Juppé, doit 24 ans après les grandes grèves de 1995 faire du Chirac, avec toutefois une difficulté en plus, la profondeur des divisions et de l'antagonisme qu'on continue de susciter dans l'opinion française, un chef de l'État nommé Macron.
Donc j'en déduis que les Suisses connaissent le droit dans ses bottes, l'expression d'Alain Juppé.
Bien sûr, Richard Verli connaît tout de la politique.
Les plus jeunes ne doivent pas connaître le droit dans ses bottes qui, s'est soldé quelques jours plus tard par un retrait du projet. Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on peut réentendre sur le site de France Culture, franceculture.fr.